France Musique. Musicopolis. Gershwin, 1935. New York.
Good evening. This is George Gershwin speaking.
Le 10 octobre 1935, événement à New York. C'est la première, très attendue, du nouvel opéra de George Gershwin, Porgy and Bess, au Alvin Theater, dans la 52e rue, en plein centre de Manhattan. À la fin de cette soirée du 10 octobre 1935, la distribution, le chef, les auteurs, le compositeur doivent se présenter sur scène sous des tonnerres d'applaudissements. Ils sont rappelés sans fin. Beaucoup de personnalités sont présentes. Joan Crawford, Kirsten Flagstaff, Catherine Hepburn, Fritz Kreisler. C'est un événement mondain et pas seulement culturel. Et c'est la soirée la plus glorieuse de toute la carrière de Gershwin, qui va se conclure par une réception. 400 invités sur la terrasse d'un appartement de Manhattan. Toute l'équipe est soulagée de cet accueil chaleureux. À présent, il faut attendre les critiques. De quoi avoir encore quelques angoisses. Journalistes sont présents pour la première de Porgy and Bess, à la fois des critiques dramatiques et des critiques musicaux. Double revue de presse pour Gershwin donc. Et c'est un soulagement. Dans leur grande majorité, les critiques ont adoré la pièce. Ils estiment que non seulement c'est la plus grande réussite personnelle du compositeur, mais aussi que c'est le meilleur opéra américain jamais écrit et un tournant dans le développement d'un opéra national américain. Ils apprécient la manière dont la musique rehausse l'histoire. Et ils sont heureux qu'on comprenne bien le texte chanté. Ils aiment la partition qu'ils trouvent sincère, pleine de fraîcheur et de goût.
Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got no car, I got no mule, I got no misery. The folks with plenty of plenty, I got a lock on their door. Afraid somebody's going to rob him while he's out, I'm making more. What for? Now I got no lock on my door, that's no way to be. They can steal the rug from the floor, that's okay with me. All the things that I prize, like the stars in the skies, all are free. Oh, I got plenty of nothing,
and nothing's plenty for me. I got my gal, I got my song, I got a him the whole day long. Oh, there's no use complaining, huh? I got my gal, got my lord, I got my song.
Okay, change since that woman come to live with he. He ain't cross with children no more, and ain't you hear how he invests all the time singing in their room? Happy.
Bien sûr, parmi toutes les critiques de Porgy and Bess, quelques-unes sont moins élogieuses. Des voix s'élèvent par exemple dans la communauté noire. En effet, si toute la distribution est formée de chanteurs afro-américains, l'intrigue et le livret sont basés sur le roman d'un auteur blanc et la musique est d'un compositeur blanc. Est critiquée notamment leur vision étroite de la vie des Noirs du sud des États-Unis, réduite à des problèmes de drogue et de violence. Certains critiques blancs, en revanche, pointent le caractère hybride de l'œuvre, qu'ils estiment osciller entre opéra et comédie musicale. Certains lui reprochent le caractère antinaturel des récitatifs, que pourtant, Gershwin s'est attaché à rendre le plus proche possible des inflexions du langage parlé. Et puis, s'interrogent les esprits chagrins, est-ce que vraiment, dans un opéra, on doit trouver autant de chansons à succès ? Il est vrai qu'il y a un certain nombre de chansons à succès dans ce Porgy and Bess de Gershwin. Pour ne prendre que Summertime, figurez-vous qu'un groupement de collectionneurs a compté qu'au 1er juin 2017 à 0h, il y avait déjà eu, à leur connaissance depuis la création, 82 712 auditions publiques de la chanson, dont 67 591 ont été enregistrées.
Summertime.
Bien sûr, avec près de 70 000 enregistrements de Summertime, je pourrais consacrer au moins un an d'émission rien qu'à cette chanson. Mais pour aujourd'hui, je m'en tiendrai à ces trois versions, Mahalia Jackson, Janis Joplin et Ella Fitzgerald. Vous serez peut-être plus intéressé de savoir comment George Gershwin est devenu, en quelques années, l'un des plus prolifiques et talentueux compositeurs de ce genre. Une petite précision tout de même, quand je parle de chansons ici, je n'entends pas chanson à la française, j'emploie la traduction du terme anglophone de song, qui désigne une forme qui, selon Frank Medioni, dans son petit livre sur Gershwin, se situerait entre air d'opérette ou d'opéra comique, lied romantique, chansonnette à la mode et tube de variété.
I've always tried to figure out just how it always comes about. When you're lonesome as can be, you're in need of sympathy. Oh goodness, how you sit and sigh, still there's nobody nigh. When you go after them, you find a raft of them, that is the way you will find them. When you want them, you can't get them. When you got them, you don't want them. All the wise men try to dope it out, but it seems they're always left in doubt. When you get 'em, then you pet 'em. When you lose 'em, you forget 'em. At certain times you have too many, and lots of other times you haven't any. When you want 'em, you can get 'em. When you got 'em, you don't want 'em. You're never satisfied at all.
Cette chanson est l'une des premières publiées par Gershwin en septembre 1916. Il n'a pas encore 18 ans lorsqu'il signe son premier contrat d'édition. Et bientôt, il l'enregistre sur rouleau. À 18 ans, le jeune Gershwin a déjà acquis une grande maîtrise du piano et du style de chanson qu'il propose aux clients de la maison d'édition dans laquelle il travaille. Remix sur Tin Pan Alley. Tin Pan Alley, en français l'allée des casseroles en fer blanc, c'est le quartier de la 28e rue Ouest à Manhattan, entre la 5e et la 6e avenue, où se tiennent à cette époque la plupart des éditeurs de musique populaire et où des pianistes tapent sur des pianos un peu casseroles dans tous les immeubles. À 15 ans, en 1916, Gershwin, qui ne veut plus aller à l'école, s'est fait engager comme song plugger, démonstrateur de chansons. Il joue pour les clients les chansons qui lui sont demandées. Les modèles du jeune Gershwin sont les compositeurs à succès de Broadway, ceux dont les chansons sont aussi les tubes des revues ou des comédies musicales. Jérôme Kern, par exemple, qui a commencé sa carrière vers 1905. C'est en partie grâce à lui que la comédie musicale américaine est en train de trouver sa vraie personnalité et de s'éloigner des productions viennoises ou britanniques alors en vogue. Kern est aussi un compositeur extrêmement prolixe. Il a déjà une centaine de chansons à son actif et il a participé à une trentaine de shows. Gershwin joue ses tubes et parfois il les enregistre sur rouleau, comme on l'entendait à l'instant. Ce qu'il fait aussi avec les chansons de l'autre prolifique et talentueux compositeur de l'époque, Irving Berlin. Irving Berlin est l'un des modèles du jeune compositeur de chansons George Gershwin. Berlin qui impose le rythme syncopé du ragtime dans les chansons et les revues, comme on l'entend dans ce Alexander's Ragtime Band, son premier succès national en 1911. Pendant que George joue du piano 8 à 10 heures par jour sur Tin Pan Alley, pendant qu'il acquiert de plus en plus de virtuosité, qu'il apprend à arranger et à transposer et qu'il compose lui-même des chansons et des ragtimes, il essaye aussi d'en apprendre davantage sur la théorie et de se faire une culture musicale. Il a pris des leçons de piano très jeune et il a eu plusieurs professeurs de composition. Mais il souffrira toujours un peu du syndrome de l'autodidacte, regrettant de ne pas en avoir fait plus. Et presque jusqu'à la fin de sa vie, il réclamera à diverses sommités des cours d'écriture, d'harmonie, de contrepoint, d'orchestration. Gershwin évoque deux grands souvenirs dans sa formation musicale. Le premier, vers l'âge de 6 ans. Dans une galerie marchande, il entend un piano mécanique jouer la mélodie en fa de Rubinstein. Il est saisi. À partir de ce jour, se rappelle-t-il, je ne pus entendre cette mélodie sans revoir cette scène. Moi, sur le trottoir, debout, nu-pied, en salopette, écoutant avec avidité. On imagine bien ce petit garçon, n'est-ce pas ? Sa famille est de classe moyenne, ils ne sont pas pauvres. Ils ont un phono à la maison et le père Gershwin écoute des disques, de l'opéra, Caruso par exemple. Et pourtant, le petit George est une sorte de gamin des rues qui n'aime rien tant que l'école buissonnière et les coupes en dable. Mais là, il est scotché par la musique. Quelques années plus tard, deuxième révélation. Cette humoresque de Dvorak, dans laquelle on pourrait légitimement entendre des rythmes un peu jazzy, est le deuxième morceau qui frappe Gershwin dans son enfance. À nouveau, le garçon, d'une dizaine d'années cette fois, est dans la rue. Et il entend jouer un élève de son école, Maxi. Il est tellement passionné qu'il décide de l'attendre devant l'entrée. Il pleut, George attend des heures sans succès, Maxi est sorti par une autre porte. Il se débrouille pour savoir où habite le jeune violoniste et il se présente chez lui dégoulinant de pluie. Maxi est déjà reparti, mais la constance de George va finir par payer et les deux garçons deviendront très amis. Ce fut Max qui m'ouvrit le monde de la musique, écrit George. Un biographe de Gershwin n'hésite pas à dire qu'on retrouve l'influence de la mélodie de Rubinstein et de l'humoresque de Dvorak dans à peu près toutes les chansons qu'il a écrites, et aussi dans ses œuvres instrumentales, comme cette Short Story pour violon et piano. Short Story de George Gershwin, la première partie dans la version de Samuel Douchkin, enregistrée à Londres en 1928, et la fin, à l'instant, dans une version 21e siècle, Leila Josefovitch avec John Novacek au piano. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Alain Joubert pour le mixage, Françoise Monteil pour les recherches et le site, et Claire Lagarde pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.